Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats.
Je suis Audrey Chemouly, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration.
Vous écoutez le podcast Génération Avocat Entrepreneur.
La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation.
Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit.
Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
On a beaucoup entendu parler d'eux parce qu'ils ont remporté le prix de l'innovation des avocats en 2022 dans la catégorie « Responsabilité sociale et gouvernance ». Ils se sont dotés d'une mission, rendre le droit accessible dans un environnement responsable et durable, et sont devenus sociétés à mission, parmi les premières de notre profession. La croissance de Victoire Avocat, c'est aussi le lancement d'un, puis deux podcasts, un blog, des infographies, des interventions pro bono dans des associations. On peut dire qu'ils ne chôment pas. Bref, compte tenu de cette progression fulgurante de ce jeune cabinet, on a voulu savoir quels étaient leurs secrets de fabrication. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans cet épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Marie-Laure Méolens, avocat en droit du travail et cofondatrice du cabinet Victoire Avocat.
Bonjour à tous.
Bonjour André,
bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Laure.
Alors Marie-Laure, on commence toujours par la même première question de notre podcast, c'est toujours la même, c'est Marie-Laure, qui es-tu? Quel est ton parcours?
Alors je m'appelle Marie-Laure Méolens, je suis avocate au barreau de Paris, j'interviens en droit du travail au sein d'un cabinet que j'ai cofondé, qui s'appelle donc Victoire Avocat, et je suis avocate depuis 2008. 2008, qui est aussi l'année où j'ai quitté mon sud natal pour venir m'installer à Paris. Où j'ai prêté serment et où j'ai commencé à embrayer sur différentes expériences en qualité de collaboratrice pendant 8 années, jusqu'à la création du cabinet Victoire en 2016. Donc 8 années durant lesquelles j'ai pu être aux premières loges de cette expérience collaborative, avec un intérêt et des avantages évidents que j'ai trouvé dans cette profession, et puis aussi parfois un aspect plus critiquable. Et donc voilà, j'ai pu pendant ces 8 ans analyser ce qu'était la vie en tant que collaborateur libéral.
Et donc, fort de cette expérience, elle met des mots, c'est pudique. Non, d'ailleurs, on peut peut-être signaler l'épisode que tu as fait dans le podcast d'Anomia avec Valentin, ton petit Bernard qu'on embrasse d'ailleurs, dans lequel tu développes un peu plus cette partie de ta vie.
Voilà, exactement, sur les expériences en collaboration libérale, parfois.
Plus ou moins heureuse.
Plus ou moins heureuse, exactement.
Alors, pour avoir quelque chose de complet, il faut écouter les deux.
Comme ça, tu vois, exactement.
Voilà, teasing sur l'épisode de Valentin.
Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance de Victoire Avocat?
Oui, alors Victoire Avocat, c'est justement né de ça, c'est-à-dire de cette volonté de créer un cabinet qui nous ressemble, à Sarah, mon associée cofondatrice, et moi-même. Donc avec, en implémentant les pratiques qu'on avait aimées, celles qu'on voulait retrouver dans la structure qu'on était sur le point de créer, et bien en fait, ce qu'on a adoré, mais c'est plus un lien, si tu veux, avec la profession qu'on a découverte, c'est-à-dire la richesse de cette profession, le fait que tu peux te renouveler en permanence en exerçant ce métier, ce qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que si tu... je parle de ma pratique en droit social, mais c'est une matière qui est mouvante en soi, donc la législation change tout le temps, ça oblige à évidemment de la gymnastique intellectuelle, ça m'intéressait, et puis surtout la richesse des dossiers qui changent, que tu sois avocat en conseil ou en contentieux, tu peux presque exercer 2 métiers complètement différents, donc garder cette richesse et garder cette liberté folle qu'on avait beaucoup aimé. Et puis, à l'inverse, laisser au placard toutes les expériences malheureuses qu'on avait pu vivre l'une et l'autre, notamment en lien avec le présentéisme, en lien avec les urgences psychologiques des associés, en lien avec... créer un cabinet à notre image, qui nous ressemble, c'était un peu le postulat, la roadmap du début. Et à cela se sont ajoutés différents constats qu'on a pu faire. Ce qu'on a pu faire, c'est... avoir conscience rapidement que en fait l'image de la profession était parfois dégradée auprès des justiciables, notamment en raison de l'opacité de la politique de facturation pratiquée par les cabinets ou parce que le langage utilisé était trop complexe. Donc tous ces constats nous ont amenés à essayer de prendre le contre-pied de ça et à créer une structure dans laquelle on pouvait éviter ces écueils.
Alors, moi j'ai deux questions. Vous êtes rencontrées comment et est-ce que vous faites toutes les deux du droit du travail ?
Alors, on fait pas... Non,
non, vous n'êtes pas un cabinet de droit du travail.
Non, on n'est pas un cabinet de droit du travail, on est un cabinet de droit des affaires. Mmh. Donc Sarah, elle fait essentiellement du droit de la franchise et de la distribution. Et on s'est rencontrés comment ? On s'est rencontrés parce qu'on était toutes les deux collaboratrices à l'époque dans une même structure où on s'est rencontrés en 2012.
Et c'est pas... Alors, on va rentrer un peu dans la façon dont vous avez imaginé Victoire Avocat, mais plus sur la partie business. Mmh. Du coup... Vous partiez toutes les deux avec une qui fait du droit de la franchise et toi qui fais du droit social. Donc ça peut potentiellement se rejoindre dans certains cas, mais bon, globalement, ce n'est pas nécessairement les mêmes cibles.
Ouais.
Et du coup, comment est-ce que vous avez imaginé ce ciblage-là ? Comment est-ce que vous avez envisagé le développement ?
Alors en fait, ce que c'était au début et ce que c'est devenu par la suite, ça a beaucoup bougé. C'est aussi pour ça que je te parlais de flexibilité, de liberté, ce qui nous avait toujours beaucoup plu dans l'exercice de ce métier. C'est parce qu'en fait, Sarah, historiquement, quand on s'est installé, on n'avait pas tellement préparé de business plan au sens strict, tu vois, parce que ça s'est fait de manière un peu soudaine. Donc du coup, on faisait un peu de tout, toutes les deux. Alors moi, je faisais quand même majoritairement du droit du travail, mais elle faisait du droit du travail avec moi. Elle faisait pas de franchise du tout à l'époque. Elle sortait d'un cabinet où elle avait fait des procédures collectives pendant des années. Donc en fait, elle a fait des rencontres professionnelles et on lui a demandé d'intervenir sur des sujets de franchise. Alors au début, elle l'a fait en backup avec l'appui de confrères spécialisés et ensuite, elle a développé cette clientèle-là et qui est très focus sur les restaurateurs franchiseurs et franchisés en fait. Voilà. Donc en fait, au début, il n'y avait pas tellement de business plan et elle a évolué au gré des demandes de ses clients et des rencontres professionnelles qu'elle a pu faire.
D'accord. Et est-ce que Victoire Avocat, finalement, est-ce que Victoire Avocat, pardon, a une cible de clients particulière ou pas vraiment, en fait ?
Alors, la cible de clients à l'origine, c'était des entreprises TPE, PME, plutôt entre 200 et 300 salariés, quoi, si tu veux. Voilà, donc ça, c'était notre cible historique. Mais moi, c'était quand même assez bien défini, parce que je savais à qui je parlais. J'ai toujours travaillé beaucoup avec des entreprises qui relèvent de la convention collective Syntec. J'ai toujours eu toujours un peu la même cible. Elle parlait à des entreprises. Mais je pense qu'il faudra en parler avec elle. Mais elle a beaucoup évolué dans son positionnement du début et dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Donc concrètement, vous commencez un peu comme ça, sans planning, sans rien. Et au fur et à mesure, vous établissez quand même une roadmap, un business plan.
On n'a jamais établi de business plan, on n'a jamais établi de roadmap. Moi, j'en ai établi une dernièrement parce qu'on en parlait en off là juste avant, mais j'ai intégré un programme financé par Goldman Sachs au sein de l'ESSEC, donc qui m'a vraiment aidé à construire ce cheminement. Mais je pense que c'est aussi le manque de la formation des avocats. Alors tu me diras, si tu le dispenses à l'EFB, c'est fatalement trop tôt parce qu'en fait, tu es encore dans tes études et là, tu te projettes dans une expérience de collaboration. Donc c'est peut-être trop tôt pour aller parler de business plan et de voilà. Mais du coup, moi, cette formation-là, je ne l'avais jamais eue, au même titre que Sarah ne l'avait jamais eue. Et donc non, on n'a jamais élaboré ça. On l'a structuré au fil des années et ensuite, on a su s'adjoindre les conseils de Presta ou faire des formations quand on sentait qu'il y avait un manque. Mais on s'est jamais posé en se disant tiens, un business plan c'est ça. On connaissait même pas les termes en réalité. Enfin, c'est des mots assez.
Vous êtes encore deux associés aujourd'hui ou vous êtes plus ?
On est trois associés.
Vous êtes trois associés et combien de collaborateurs ?
Et on est là. Je viens de recruter une senior dernièrement qui va arriver le mois prochain et on sera donc 14 avec les associés, les collabs et les deux stagiaires et alternants.
Ok, alors, Victoire Avocat commence comme beaucoup de cabinets d'avocats, c'est-à-dire...
test and learn.
Ou surtout, on s'en va vite de notre cabinet.
Voilà.
Ouais, puis, on s'entend bien, mais on se casse ensemble.
Non, mais aussi, on espère que les formations qui sont quand même, on doit dire, plus développées aujourd'hui... Enfin, je pense que... je ne sais pas si on a le même âge, mais en tous les cas, on a prêté serment la même année. Et ce qui est sûr, c'est qu'à notre époque, mais personne n'en parlait. Ça, c'est une certitude.
Parler de quoi ?
Parler de l'entrepreneuriat.
Mais évidemment. Et puis alors, surtout, juste monter ton cabinet, ce n'était pas une option. C'est-à-dire qu'il y avait deux options. C'était être collaborateur au sein d'un cabinet, éventuellement avoir l'opportunité un jour d'en devenir associé, ou alors aller en entreprise. Enfin, moi, c'était un peu les deux seules issues que j'avais envisagées. En 2008, en tout cas, quand j'ai prêté serment, personne ne te disait que tu pouvais monter ta structure.
Maintenant, il y en a qui sortent de l'EFB et qui montent un cabinet tout de suite.
Et puis, je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous l'étions avant.
Pas tous. Hein,
non, pas tous, mais je pense qu'ils le sont. Enfin, en tous les cas, je pense qu'ils le sont un peu plus.
Je sais pas, parce que j'en parlais hier avec un avocat qui est tuteur au lab de l'EFB, qui me disait, en fait, ils sont encore comme nous, quoi. Allez, il y a 10% qui ont compris qu'il fallait évoluer. Les autres, ils voient encore l'avocat juste comme l'avocat avec les effets de manche et... etc.
Non, mais en fait, c'est à la limite, c'est tôt dans la formation de parler de business plan. Quand la seule préoccupation qu'ont les collaborateurs juniors quand ils rejoignent Victoire, moi je vois, c'est qu'ils veulent être formés. En fait, ils n'en ont rien à faire de nos histoires d'entrepreneuriat. C'est trop tôt.
Mais en vrai, c'est pas tôt parce que ça met
mais
des graines.
Rien de, voilà, c'est vrai, bien de semer une graine et de savoir qu'il y a des alternatives possibles pour le jour où tu te sentiras prêt, en fait. Ce que moi, je n'avais pas compris, finalement.
Bon, alors, donc de façon hiératique, Victoire Avocat naît. Et ensuite, vous vous développez, et donc Charlotte le disait en introduction, comment vous décidez, pourquoi est-ce que tu te dis que, ok, maintenant il faut faire un podcast, pourquoi tu te dis, il faut que je fasse un blog, c'est quoi le constat
et à je quoi sois une société à mission surtout.
Ouais, et j'arriverai. Mais la société à mission, elle est arrivée après. Donc
oui, dernièrement.
J'imagine. Okay, c'est récent. Okay.
Ouais, c'est vrai. Alors, chronologiquement, donc à titre personnel, j'ai toujours un intérêt marqué pour les histoires d'entrepreneurs. J'adore assister à la naissance d'une idée, qu'on me raconte comment, en tant que consommateur, tu as peut-être, je sais pas, identifié un besoin et tu t'es dit, tiens, et si je le conceptualisais, et si je pitchais, et si je regardais s'il y a un marché et que je le confrontais au marché et puis est-ce que ça va fonctionner ou pas et est-ce que je vais modifier le projet initial, pivoter, voilà. Donc ces histoires-là m'ont toujours beaucoup intéressée et depuis des années j'écoute des podcasts depuis 2017. Quand j'ai découvert ce média-là, j'en ai fait une consommation extrêmement intense. Donc voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai dû écouter à peu près tous les épisodes, ce qui était initialement la crème de la crème, qui est devenu le gratin, qui est devenu le podcast de Pauline Léniaud. Pareil avec Génération Entrepreneur, avec un podcast qui s'appelait initialement Génération XX et qui était dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc j'ai une très grosse consommation de ces podcasts en lien avec l'entrepreneuriat. Et à chaque fois que je trouvais des idées pertinentes, je me disais, mais en fait, on pourrait les implanter dans notre écosystème à nous. Donc, le podcast est né de ça. J'ai trouvé que le support était extrêmement pertinent, surtout pour nos vies parisiennes, où tu prends les transports tout le temps. Et globalement, c'est quand même assez agréable.
Et c'est accessible. Pour voilà. À faire.
Et puis, c'est pas très compliqué, exactement.
Enfin, c'est quand même, c'est hyper compliqué.
Ne tentons pas les gens.
Non mais c'est vrai que c'est un média à produire qui est peu cher et qui est...
Compte tenu du ratio.
Ouais.
Exactement. Donc l'histoire commence comme ça. À ce moment-là, je me dis, est-ce que je fais mon benchmark ? Donc je me dis, c'est bien ce média-là, mais est-ce que ça existe déjà chez les avocats ? Est-ce que l'idée est vraiment novatrice ou est-ce qu'en fait elle a déjà été exploitée par d'autres ? Je m'aperçois, donc on est en 2018, que Karine Deluca qui a lancé son podcast qui s'appelle Parlons Divorce. Donc c'est la première, je crois.
Qu'on n'arrive pas à avoir, faut vraiment qu'on la rappelle.
Karine, si tu nous écoutes.
Donc je l'appelle, je prends mon téléphone, j'ai passé un coup de fil et je lui demande comment elle a fait, avec qui elle travaille, quel est son monteur, enfin tout le revers du décor. Et, très gentiment, elle répond à toutes mes questions. Et je décide de me lancer un peu dans l'aventure. Donc voilà comment commence.
Karine, elle fait des petits podcasts pour expliquer à ses clients comment faire en situation de divorce.
Exactement. Et je crois que c'est pas conversationnel, à moins qu'elle ait changé.
Non, c'est vraiment des tutos.
Qui s'adossent au dossier client. Ouais. Ce qui est un peu le cas de droit devant aussi. À un moment, je me dis, ce support existe. Est-ce que ça serait pas aussi un moyen d'aller à la rencontre d'autres acteurs RH, et donc j'en fais un épisode sur deux aujourd'hui et dédié à une interview d'un invité en lien avec le secteur RH.
D'accord. Donc en fait, tu te dis que c'est, en fait, t'aimais bien le média, quoi.
J'adorais.
Mmh. C'est ça,
et je me dis qu'il y a de l'avenir. Et puis je regarde aussi les statistiques aux États-Unis de croissance de d'utilisation de ce média, et c'est exponentiel. Enfin, quand ça commence en 2017, les gens prévoient un avenir extrêmement glorieux à ce support.
D'ailleurs, c'est marrant. Je vais dire un truc qui n'a absolument rien à voir, mais c'est assez rassurant puisqu'on est tout le monde a peur un peu de TikTok, Instagram, les filtres, mais finalement. L'être humain est pas si mauvais s'il écoute juste des podcasts sans voir des voilà, je sais pas pourquoi je m'emballe là-dessus.
Ouais, bah c'est ça. Voilà. Enfin, par exemple, nous on est dans un studio qui a développé depuis la vidéo alors que finalement il y avait que le podcast, tu vois, qui fait maintenant un podcast vidéo, enfin peu importe. Le studio module parce que comme ça fait de la pub. Enfin.
Enfin, pas trop parce qu'après il y a plus de créneau.
C'est vrai. Donc OK, donc tu aimes bien le média et tu te dis je vais d'abord faire un peu ce à l'image de ce que faisait Karine, ou de ce que fait toujours d'ailleurs Karine, de Luca, de dire en fait, je vais dispenser du droit gratuit, je vais expliquer des points de droit. Exactement. Ça fonctionne tout de suite ?
Ça fonctionne tout de suite. Le premier épisode dont je vais annoncer la sortie sur LinkedIn. Alors là, je parle avec Laura Siriani, dont on a parlé tout à l'heure, avec laquelle je commence, c'est les balbutiements, on vient de se rencontrer, et c'est les balbutiements de nos travaux ensemble. Et c'est elle qui m'aide à construire la photo de présentation en me disant « Non mais attends, il y a plein de podcasts qui existent, tous ils ont une jaquette où en fait tu vois pas visuellement le visage de l'auteur, enfin de l'hôte. Essaye peut-être avec une photo de toi, un peu sur le mode Pauline Léniaud de Gémio qui a son podcast, essaye comme ça. » Et puis elle m'aide donc à organiser la sortie. Et en revanche, je suis seule à rédiger le post de lancement sur LinkedIn qui sera partagé par 55 000 personnes.
Mmh. Ça, on est un peu jalouse. Moi, j'attends les 17 likes en ce moment.
Non, mais alors,
dire que je ne vais plus du tout sur les réseaux.
Les épisodes suivants n'ont pas tous eu le même succès. Mais ce premier épisode qui, en plus, n'était pas... Enfin, je devrais pas dire ça, mais bon.
C'est pas le meilleur, quoi. Non, mais clairement, on peut se dire des choses probablement.
Voilà. Et puis, concerne l'entretien préalable au licenciement, donc un thème qui en plus est un peu déprimant, si tu veux.
C'est vrai que c'est pas très marrant, c'est vrai.
Mais comment il y a eu cet effet boule de neige qui a liké ?
Écoute, je ne sais pas, mais on est en 2019, le podcast n'est pas encore très utilisé.
Il y a une super blague, il y a tant de choses.
Non mais donc ça marche tout de suite quoi.
Ça marche tout de suite. Et dans la semaine qui suit, je pense que j'ai à peu près 120 messages LinkedIn.
Voilà, parce que c'était ce à quoi je voulais aboutir, c'est que donc les deux choses qui m'intéressaient, c'est que tu disais que d'abord t'en fais un point de droit, tu vois, pour les gens qui ont besoin peut-être de s'intéresser au point de droit que tu développes à l'intérieur de l'épisode, et ensuite t'en fais un podcast, ce que t'appelles, bon, moi j'ai découvert ce terme quand on s'est parlé hier, le podcast conversationnel. Donc en fait, Charlotte, sache-le, on fait un podcast, enfin moi je savais pas, donc moi j'ai appris, on fait un podcast conversationnel. Et donc en gros, c'est plutôt un podcast d'inspiration ou de trucs, c'est-à-dire on est toujours dans le domaine du droit du travail, mais c'est autour du droit du travail.
Mais toi, quand tu fais ton épisode sur la lettre d'entretien préalable,
entretien préalable licenciement.
Ouais. Tu fais conversationnel.
Non, là, je fais toute seule. Au début,
je vois pas comment je fais ça. Et toi,
au début, je suis toute seule. Déjà, embarquer d'autres gens que moi dans l'aventure. Alors que moi, aujourd'hui, c'est complètement rodé le podcast. Mais au début, c'était un peu la traversée du désert.
Au début, c'est un peu un MOOC. Ouais. En fait, tu t'écris ton truc et tu le lis.
T'es moins spontané. Ouais. Et puis, il faut le matériel. Alors, vous êtes dans un studio, mais moi, j'avais mon petit.
À l'époque, on a commencé avec un sac à dos.
T'inquiète pas.
Si tu veux, voilà, t'es quand même prise par le montage. Tu te demandes comment ça va fonctionner. T'as pas envie d'engager des frais trop élevés parce que tu sais pas si ça va avoir un retour sur investissement ou pas. Donc, t'essuies un peu les plâtres. Donc, tu te dis, je vais pas en plus embarquer des gens avec moi dans ce qui va peut-être être un four.
Je comprends.
Ok.
Je comprends. Et donc, et t'en tires quoi de ce podcast ?
Rappelle le nom de ton podcast quand même.
Droit devant.
Droit devant, ok. Mmh. Donc.
Alors j'en tire quoi ? Aujourd'hui ou à l'époque ?
T'as combien d'épisodes aujourd'hui ? Et est-ce que tu continues ? Non, maintenant tu es passé au conversationnel, c'est ça ?
Les deux.
D'accord.
J'alterne en fait vraiment les deux. Aujourd'hui, j'ai 41 épisodes. Aujourd'hui, j'ai eu des invités incroyables. Corinne Hirsch du Laboratoire de l'égalité, Pauline Léniaud, donc la fondatrice de Gémio, Garance Hivernaud qui est venue parler des bilans de compétences sur Garance et moi. Le dernier, c'est Alexis Ève de Yaniro qui a lui-même un podcast, donc maintenant je fais parfois des podcasts croisés, qui est venu parler de comment embarquer, fidéliser, motiver ses collaborateurs, parce que lui, il fait de la formation à destination des managers. Donc voilà, j'en oublie. Insa Felassini, évidemment, de Ma Juste Valeur, qui est venue parler de la négociation, comment les femmes brisent le plafond de verre, comment lutter
donc,
contre le syndrome de l'imposteur.
Tu axes quand même toujours relations
oui,
du travail.
Il y a toujours il y a les experts de ADN qui sont venus, qui sont experts dans la négociation, notamment qui gèrent les crises sociales, les conflits sociaux, les grèves, les blocages d'entreprises, qui sont venus parler de comment déminer un conflit existant. Donc c'est toujours en lien avec le monde du travail. Voilà.
Et donc, du coup, la question c'est, t'en tires quoi ?
Bah, j'en tire des rencontres incroyables. Ouais. Je travaille sur la marque employeur du cabinet puisque ça donne de la visibilité. Une expérience humaine que j'aime beaucoup et accessoirement des clients. Donc,
c'est ça, donc t'en tires des clients.
Ouais.
T'as des gens qui t'appellent parce qu'ils ont entendu je sais pas, tel épisode qui les a intéressés.
Exactement, exactement. Et de façon très régulière.
Ah oui, donc c'est intéressant. Donc ça veut dire que c'était... Ok, bon ça c'est pour le podcast. Et après, Charlotte disait en introduction, votre blog, vos infographies, etc. Là, comment vous faites si vous faites appel à un prestataire ou pas et par ailleurs, est-ce que vous en tirez du coup, au-delà de la visibilité, de la substance, comme tu disais, accessoirement des clients.
Non mais surtout, vous faites pas tous du droit du travail, comme on l'a dit au début, donc vous faites des infographies... Il y a que toi ou tout le monde le fait?
Non, tout le monde le fait. Ouais. Là, on a un podcast qui va sortir sur l'e-sport qui doit arriver en juin. On fait tous des infographies sur nos matières respectives. On anime tous le blog, c'est-à-dire on poste régulièrement des articles sur le blog. Voilà, chacun intervient de façon assez concertée avec un planning
c'est
de publication.
C'est quoi l'e-sport?
L'e-sport, c'est la gestion...
Je crois que j'ai jamais compris ce que c'était.
La gestion des joueurs, la gestion des éditeurs de logiciels, la gestion de tous les compétitions e-sportives, donc les jeux
en
vidéo
ligne.
En ligne. Ouais.
En ligne. Les mecs, ils se mettent sur Twitch en...
Des geeks.
Des geeks. Des geeks.
D'accord.
Ok, et donc tout ça, ça vous fait remonter sur Google, ça vous...
Exactement, ça nous permet de travailler davantage sur l'exposition de notre site internet, ce qu'on double en fait de campagne AdWords.
C'était ça la question.
Voilà.
Ouais, vous faites de l'AdWords et ça fonctionne bien.
Très bien. Très bien, mais alors j'en parle beaucoup autour de moi parce qu'on me demande ça marche tes campagnes AdWords, tout ça, et en fait c'est sûr que si tu fais de l'AdWords c'est que t'as pas de page de vente et que tu sais pas ce que tu vends, ça ne marche pas du tout en fait. Donc pourquoi ça marche? Parce que on a des pages de vente qui sont extrêmement bien, enfin c'est un peu présomptueux de dire ça, mais sur lesquelles on a beaucoup réfléchi en tout cas.
Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est une page de vente, parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne.
Alors par exemple, pour donner un exemple concret en lien avec le CSE typiquement, donc le comité social et économique que tu dois mettre en place dans les entreprises au-delà d'un certain seuil d'effectifs, donc de 11 salariés, ton entreprise va devoir organiser des élections des représentants du personnel. Donc nous, on a construit une page. Si tu cherches sur Google « Organiser les élections des représentants du personnel, vote électronique », tu vas probablement tomber sur une des pages qui est censée être bien positionnée. C'est un test pour...
Attends, on peut essayer si tu veux.
Et toutes ces pages sont sur ton site.
Toutes ces pages sont sur mon site. Donc en fait, on explique le besoin client. Ensuite, on explique notre plus-value, la valeur qu'on va apporter. On explique comment on fonctionne. On parle de notre plateforme en marque blanche de vote électronique avec laquelle on travaille, qui est aussi une legal tech qui travaille avec nous, pour donner accès à nos clients à une plateforme de vote qui va leur permettre de faire voter les collaborateurs. Il y a un tarif, il y a toutes les... qui est précisé. Ensuite, il y a toutes les plus-values que l'on apporte du fait de notre accompagnement. Donc, c'est très élaboré, et c'est un discours en marketing un peu classique, mais voilà. Et donc les gens qui arrivent sur cette page n'ont pas de surprise sur le prix que ça va leur coûter, sur ce à quoi ils peuvent s'attendre ou pas. Tout est expliqué de façon très détaillée. C'est pour ça que ça fonctionne, je pense.
C'est-à-dire que... Pardon, tu dis, en fait, faire de l'AdWords. Moi, j'ai par exemple un site de merde, un site qui est très bien pour le prix que j'ai mis sur le site et pour la commande que j'avais passée, mais c'est un site vitrine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Ce que toi, tu dis, c'est que si moi, je faisais de l'AdWords, il y aurait un intérêt qui serait probablement limité, en fait.
Oui, parce qu'à la fin, moi, j'ai un call to action. Donc, en fait, on va pouvoir soit m'envoyer un mail, soit me téléphoner de façon très claire. Toute la démarche que tu es censé faire est exposée sur le site. Tu vas pouvoir cliquer sur un lien qui va te montrer un exemple de rétro-planning que l'on propose à nos clients pour savoir combien de temps ça prend le processus électoral. Donc, tu as des liens aussi qui sont faits entre les pages. Donc, on a réfléchi à ça, et c'est pour ça que ça marche, je pense.
Oui, parce que moi, attends, excuse-moi, juste, j'ai fait le test, alors c'était pas sur les élections, parce que je me souviens pas de la page sur laquelle j'ai cliqué, mais effectivement, j'ai vu ce que t'appelles tes pages de vente. Mmh. Je trouvais que c'était assez bien fait, parce que en fait, les objectifs, qu'est-ce que vous cherchez, sur en quoi on peut vous aider, éventuellement, les avantages, les inconvénients, la procédure en elle-même, et en gros, renseignez-vous. Et en cliquant sur le truc « Renseignez-vous », donc moi, sur ma page, sur toutes les pages, c'était pas la même chose. Mais sur la page que j'ai consultée, en premier, ce qui était intéressant, c'est que j'ai cliqué pour voir. Et je me suis dit, putain, je vais encore retrouver un formulaire, tu sais, relou. Et en fait, non. Mais un formulaire tape-femme, en fait, non. Je sais pas comment c'est possible, mais la magie de l'informatique. C'est-à-dire que tu cliques et ça t'ouvre un mail de ta boîte mail pré-rédigé sur ce que tu dois demander et ce que tu dois renseigner pour qu'on t'envoie un devis. C'est quand même fou, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Et ça, c'est Laura qui vous a accompagné, c'est ça?
Alors ça, c'est Laura Siriani et aussi notre presta AdWords qui s'appelle Kélian Laloué, dont je suis très contente, donc je parle de lui aussi volontiers. tous les deux, en fait, c'est un travail un peu commun.
En fait, du coup, c'est... J'allais dire avant que je sache qu'il existe ces pages avec questionnaire pré-rempli, c'est que ça te permet d'avoir des clients, enfin des prospects hyper qualifiés.
Hyper qualifiés, voilà, bah, il n'y a pas de débat sur les honoraires, il n'y a pas de débat
sur le process. Donc ceux qui appellent, ils sont déjà convaincus.
Ah bah complètement, complètement. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que je parlais à des confrères qui faisaient de l'AdWords et qui me disaient non mais en fait j'ai dépensé des budgets incroyables et les gens qui m'appellent c'est pas du tout ma cible. Bon ben nous c'est ciblé donc il n'y a pas de surprise.
Ah oui, t'as raison Charlotte.
Merci Audrey.
Non mais j'avais pas dit ça comme ça. Non mais c'est vrai. Non mais non seulement t'as plus de merde en fait.
T'as moins d'appels mais
t'as
plus
qualitatif. T'as viré Jean-Paul et Claudine qui t'appellent.
Non mais Jean-Paul
parce
et Claudine
en
c'est
leur chien,
cible, c'est Jean-Paul et Claudine, c'est très bien. Mais... ah, tu sais c'est dans le premier épisode dans les premiers épisodes qu'on a fait avec Guillaume Axil Tata Rachel. Voilà, c'est Tata Rachel qui t'appelle pour te parler d'un problème. En fait, toi, tu gères juste pas son problème. Elle est parfaite peut-être pour un autre avocat, mais juste toi, c'est
oui,
pas
mais
ton sujet.
On a bien compris. J'ai rien contre Jean-Paul et Claudine.
Bref. Donc, ok. Ok. Donc, ça, pour moi, la révélation du fait, mais t'as raison, je suis trop nulle. La révélation du fait que tu puisses kickler, ça t'a.
J'ai pas dit que t'étais trop nulle.
Non, mais. Je me suis dit, putain, mais ça, c'est trop intelligent. Bon, ok, d'accord. Donc, refaire son site internet, faire son site internet avec des pages de vente très précises.
Des pages de vente, voilà. c'est un blog, en fait, un peu.
Alors non, le blog, c'est encore autre chose. Le blog, c'est en fait là où on implémente les articles qu'on écrit sujets différents. Qui viennent aussi...
Les pages de vente, c'est là où tu mets
les pages de vente. C'est-à-dire que sur la page de vente, je peux faire un lien. Vous voulez plus d'informations, ben voilà l'article que j'ai écrit sur la nullité du protocole d'accord préélectoral. Voilà.
Donc toi, au cabinet, tout est forfaitisé? T'as que des packs?
Non, tout n'est pas forfaitisé. Il y a certaines prestations qui sont forfaitisées. En fait, je me suis rendu compte que le CSE, ça marche parce que c'est un prix d'appel, c'est pas très élevé, mais ça fidélise les gens derrière. C'est ça l'intérêt, donc je peux pas tout forfaitiser non plus.
D'accord. Tu le fais pour quoi d'autre?
Je le fais pour les accords sur le temps de travail, la régularisation des forfaits jours. Je le fais pour certains actes, comme les règlements intérieurs. Je le fais sur certains...
Et c'est pas ta partie, mais peut-être que tu sais, j'ai vu que vous aviez des abonnements.
Oui.
Pour le coup, moi, ce que j'ai regardé, c'est plutôt ceux que je connais, c'est-à-dire en droit des sociétés.
Oui.
Et ça fonctionne? Vous avez...
Oui. Alors, on en a en social aussi, donc oui, ça fonctionne. Ce n'est pas des actes, c'est uniquement du conseil, exactement. Donc, il n'y a pas de rédaction de lettre de licenciement ou d'acte derrière. C'est vraiment juste du conseil.
Mais c'est du conseil par téléphone ou vous faites des consultations?
Ou par mail, mais en tout cas, ça ne va pas... Nous, on ne s'engage pas sur une réponse écrite. Donc, d'accord. On peut répondre par mail parfois.
Et c'est quoi les forfaits abonnement?
390 euros.
Par mois?
Ouais, par mois. Et donc, c'est un appel
illimité. Ouais, exactement.
D'accord. Et vous avez encadré ça en disant, il n'y a pas d'acte et pas de consultation écrite nécessaire.
Exactement, exactement.
Comme ça potentiellement...
Mais là, c'est la même chose que le CSE. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, souvent, tu travailles sur des actes.
Oui, tu fais autre chose. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends très bien. Ok, d'accord. On va arriver à la... Je voulais qu'on parle, évidemment, de la mission. Ouais. Puisque c'était quand même... en tous les cas, c'est ce qui nous a convaincus au démarrage de vous inviter, d'inviter Victoire Avocat, et puis c'était toi. Alors, je rappelle la mission, rendre le droit accessible dans un environnement responsable et durable. Tu peux nous expliquer ? Alors, ma question, elle était double. C'était, avec Charlotte, on s'est posé la question de pourquoi cette mission ? Et déjà, pourquoi avoir réfléchi à mettre une... Parce qu'en fait, tu sais combien il y a d'avocats en France qui ont une mission, qui sont sociétés à mission ?
Écoute, non, pas énorme, je crois. Hein.
Ouais, je pense,
ouais, je pense qu'il y en a une dizaine. Quoi.
Et surtout,
ouais.
Et comment t'es élu société à mission ? Enfin, il y a un tampon.
C'est un organisme tiers indépendant, ouais. Un OTI. Ouais. Alors déjà, tu vas faire des démarches auprès du greffe pour enregistrer ta qualité de société à mission. Et ensuite, tu vas faire l'objet d'un contrôle par un OTI.
D'accord.
Voilà.
Mais donc, il n'y a pas de contrôle a posteriori ?
Et le contrôle est a posteriori.
Je voulais dire a priori, pardon.
Ouais, ouais, non, y a pas
c'est
de
le latin.
Ouais, ouais.
Donc, il n'y a pas de contrôle a priori,
exactement.
Mais a posteriori.
Exactement. Okay.
Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette volonté de faire de Victoire Avocat une société à mission ?
Toujours la même chose. C'est-à-dire que je regarde beaucoup ce qui se fait sur le volet entrepreneuriat, sur les démarches innovantes des entrepreneurs qui m'entourent. Et je commençais à voir l'émergence du label B Corp aux États-Unis et puis ensuite succédé par le statut de société à mission qui a ensuite été implanté en France. Donc, j'assistais à ça et... mon histoire personnelle fait que je suis maman de deux petites filles. Donc, j'ai commencé aussi à m'interroger sur les sujets de consommation plus raisonnés. Et donc, à titre personnel, je menais ces réflexions un petit peu dans mon coin. Et à un moment, on s'est mis à se dire, je ne sais pas, je crois que c'est avec nos collaborateurs au sein de Victoire. Parce qu'il y avait ce sujet aussi qui était que c'est difficile d'implanter dans une organisation des pratiques qui vont modifier les comportements de tous. Donc, tu te dis à quel moment je peux exiger des gens qui se comportent comme moi.
C'est une question. Ouais.
Voilà. Et quand on a commencé à parler de ça, en fait, on s'est rendu compte que tous les collaborateurs étaient au contraire très emballés par le projet et que c'était juste une croyance un peu limitante qu'on avait sur le fait que les gens n'allaient pas adhérer, que ça allait être compliqué, mais qu'en fait, eux, ils avaient très envie. Donc, ça a commencé comme un brainstorming collectif. On a demandé à tous les gens du cabinet de faire des suggestions sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer et rendre plus vertueux, plus éco-responsables nos pratiques au sein du cabinet. Donc, tout le monde a rempli ce questionnaire. C'était l'année dernière, en 2022. Voilà. Et en parallèle de ça, je voyais les marques qui s'engageaient. Donc, je regardais comment elles faisaient sur la communication, quelles initiatives concrètes elles proposaient lorsqu'elle prétendait à cette qualification de société à mission. Donc, il y a eu ce côté inspirationnel. Le côté, en fait, ça plaît beaucoup à nos jeunes collaborateurs. Ils étaient même moteurs de la démarche. Et tous ensemble, on s'est posé pour construire une charte RSE qu'on a aujourd'hui sur notre site internet et pour travailler sur l'obtention de ce label de société à mission. Aujourd'hui, donc, en fait, on poursuit cet objectif de rendre le droit accessible dans un environnement responsable et durable. Et donc, ça passe par plusieurs objectifs que l'on poursuit. Le premier, donc, c'est l'accessibilité du droit, sur lequel on a parlé de ça avec le podcast, les pages de vente, le fait d'être très transparent sur les honoraires,
prix,
les infographies, voilà, les interventions.
Et puis les abonnements, c'est une accessibilité au droit.
Exactement. Donc, tout ça, c'était l'accessibilité du droit. Et puis, c'est aussi nos actions pro bono, la possibilité de faire rentrer des jeunes dans le cabinet pour des stages d'observation de façon très régulière, le pro bono qu'on déploie auprès d'associations qu'on a choisies. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a favoriser...
En revanche, ce qui est jugé par l'ETI, là, ce n'est que l'environnement responsable. L'accessibilité au droit, il n'y a pas de contrôle.
Ah, surtout, il y a un contrôle.
Ah, il y a un contrôle.
Ah, on s'engage sur un nombre de podcasts, on s'engage sur un nombre d'infographies.
En fait, c'est toi qui te fais tes objectifs et on contrôle que tu respectes bien
exactement.
Ce que tu as dit, c'est ça ?
Exactement.
D'accord,
ok. Et donc, on s'est engagé sur un nombre de podcasts, sur un nombre d'infographies, sur un nombre de newsletters, sur un nombre de stages d'observation et d'accueil à réaliser, tu vois.
Okay,
donc,
okay.
On a pris des objectifs chiffrés parce qu'en fait, la difficulté que tu peux... qui est parfois l'objection que certains ont à l'idée de devenir société à mission, c'est qu'il faut que de façon chiffrée, tu tiennes tes engagements.
Oui, c'est ça, d'accord. Fait.
Donc il y a ça, il y a favoriser le bien-être de nos talents et il y a promouvoir la sobriété. Donc ça, c'est en lien avec l'environnement durable et responsable.
D'accord. Et alors, comment il s'opère, le contrôle ?
Alors, par exemple, typiquement, je peux te parler de la pollution numérique, qui est un des objectifs que l'on poursuit dans le cadre de promouvoir la sobriété. Donc, c'est essayer de limiter notre pollution numérique en faisant un usage plus vertueux de nos boîtes mail respectives. Donc là, en fait, on a implanté au sein du cabinet un outil qui s'appelle SharePoint, et qui nous permet de ne plus du tout envoyer de pièces jointes, de manière à limiter le volume des mails. Et ça, c'est notre informaticien qui nous a fait un outil aussi, implanté en interne, pour mesurer le volume de nos
Attends,
mails.
Même à tes clients, tu n'envoies plus de pièces jointes ?
Non.
Et ça se passe comment, concrètement ?
Pas bien.
Non, mais c'est-à-dire que tu envoies un lien où ils ont accès
à... En fait, ils ont accès sur le serveur à une interface qui leur
D'accord.
est dédiée.
Okay.
Très sécurisé, avec on peut mettre une chronologie, c'est-à-dire que tu vois, ça peut être de façon très limitée, pendant une semaine ils ont accès à l'interface, ou de façon durable, tout est protégé évidemment par des codes, et en fait donc, c'est eux qui importent leurs documents sur notre serveur, et c'est nous qui leur envoyons un lien pour qu'ils puissent avoir accès aux documents sur okay. lesquels ils veulent intervenir, ou qu'ils veulent consulter.
D'accord, et donc ça limite ta pollution numérique parce ouais. que tes mails le sont moins lourds, c'est ça c'est
Exactement.
Que parce que le fait de les transférer sur un serveur, c'est plus vertueux.
Ouais, exactement.
Bah, en fait, il n'y a qu'un envoi, je suppose.
Mais en fait, c'est juste la consultation de notre ouais. serveur. On leur donne accès à notre serveur, si tu veux.
D'accord, ok.
Okay. Mais c'est vrai qu'on a c'est compliqué à envisager la pollution numérique hein, comme concept, je trouve. Enfin, bref.
Et donc, il y a d'autres actions que vous faites dans le cadre de la réalisation de la mission de Victoire Avocat ?
Oui, alors, on a parlé des actions pro bono, on a parlé de... tout ce qui est accessibilité, donc ça c'est un gros pan des objectifs poursuivis. Ensuite, il y a la lutte contre la pollution numérique, on en a parlé avec ce logiciel dont je te parle, DocuSign, la pratique de l'inbox zéro, donc voilà. Ensuite, on a...
L'inbox zéro, c'est quoi ça ?
Ben, c'est qu'en fait, tu dois trier tous tes mails et supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire et pas...
Voilà. Pour pas que ça soit stocké.
Exactement.
Normalement, tu dois... vider ta boîte mail de courrier de ta corbeille quoi, très régulièrement.
Il faut vraiment que personne vienne regarder mes boîtes mail.
Non, mais c'est...
Et après, il y a des choses, tu vois, on demande d'éteindre les ordinateurs, d'éteindre les lumières pendant les pauses, d'éteindre les multiprises. On a changé toutes les ampoules par des LED, on a changé toutes les fenêtres du cabinet parce qu'on avait, c'était une passoire thermique. Donc en fait, on a fait une meilleure isolation. On a pris des mesures concrètes. On a installé un dispositif d'eau microfiltrée pour plus du tout acheter de bouteilles. Voilà, donc on a eu.
Aujourd'hui,
on promo le vrac, on a arrêté les capsules Nespresso, tout ça, c'est fini. Non, c'est tout le monde en fait.
D'accord.
Et c'était ça peut-être l'intérêt du truc, c'est qu'en fait, t'as embarqué tout le monde.
Ouais, c'est ça qui était sympa.
Non, mais il n'y a pas un leader quand même, parce que c'est difficile
C'est plutôt, ouais, c'est plutôt nous, tu vois.
Non, mais ok. Okay. Et ça vous a. Et donc, si on doit. Alors, je comprends très bien que. Donc, si on doit traduire en ce que ça vous a apporté et ce que ça a apporté à Victoire. C'était une meilleure cohésion des équipes et une
ouais.
et peut-être une projection d'image plus cohérente avec ce que vous étiez.
Oui, alors une super cohésion d'équipe, un projet commun à porter. Mmh. Et puis, on n'a jamais reçu autant de CV que depuis qu'on ouais. est devenu société mission. Donc, c'est très agréable aussi d'attirer ouais. des gens dont les valeurs coïncident avec les tiennes. Mmh. Et puis là, ce qu'on s'apprête à faire aussi, c'est de proposer l'accompagnement des sociétés à mission. Donc, je pense que ça va être aussi un objectif pour faire grandir le cabinet de façon collective, parce que tu vois, parfois il y a ce biais, enfin ce travers lié à nos professions qui est que t'as petites équipes dans ta pratique, voilà, et donc c'est dur de trouver du sens et de faire une marque forte et d'avoir une cohésion. En fait, ce type de projet, ça renforce la cohésion et proposer l'accompagnement des sociétés afin qu'elle puisse devenir, elle aussi, maintenant qu'on a essuyé les plates de la société à mission, qu'elle puisse devenir société à mission.
Et alors ça, c'est quelque chose qu'un avocat peut faire, c'est du jeu. Non, mais parce que, tu vois, c'est du conseil juridique.
Ouais, bah oui, parce que tu dois modifier tes statuts,
ouais.
tu vois, t'as un volet juridique aussi à faire, au-delà de la réflexion sur ta raison d'être, au-delà des mesures concrètes. Donc,
non, mais ça, c'est carrément une nouvelle pratique, une nouvelle niche, quoi.
Ouais, exactement. Donc, en fait... Là, on s'est engagé à le faire gracieusement pour trois sociétés. Mmh. Donc, on est en train de structurer notre offre grâce à ces trois bêta-testeurs, si tu veux.
Ouais.
Et ensuite, on va promouvoir l'offre de façon chiffrée, quoi.
Ouais. Hyper intéressant.
J'avais une question. Tout à l'heure, on parlait de l'abonnement. Moi, c'est un truc qui me taraude, l'abonnement. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même... Il y a une première vertu à l'abonnement, c'est que bah, du coup, tu fais plus de fiches de temps.
Oui.
Et ça, moi, c'est vraiment ma plaie. Il y a une autre vertu, c'est que je pense que tu t'apportes vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, puisque maintenant, tout est enfin, t'as des abonnements à tout, tu vois, mm-hmm. même aux films que tu regardes. Donc, je pense que ça fait partie de la nouvelle économie. En revanche, là où moi, je m'arrêtais toujours un peu, c'était que je me demande le temps... Enfin, je pense que tout le monde se pose la question du temps dans l'abonnement et je comprends qu'une partie des choses que t'as... Une partie de la question, tu l'as réglée en faisant pas nécessairement de la consulte, tu vois, écrite,
oui, des réponses rapides,
des réponses très élaborées, etc.
Exactement.
Et donc, la question que je me posais, c'est tu fais comment en termes de responsabilité ? Parce que, en fait, moi, ou alors vous avez dit, ça, c'est un risque qu'on prend, tu vois. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais dire au client, oui, je vous l'avais dit au téléphone, tu vois, en fait.
Oui,
s'il
mais.
S'il y a un problème.
Oui, alors, effectivement, mais au même titre que est-ce que tu règles tout par des consultations juridiques ? Est-ce que même quand tu es au taux horaire, ça ne t'arrive pas de donner un conseil par téléphone ?
Bien sûr. Audrey, tu vas chercher un peu la...
Non, pas du tout.
J'ai bien compris ce que tu veux dire, mais.
En fait, ça va être choses très pratico-pratiques. Mon salarié n'est pas venu travailler ce matin, il m'a toujours pas envoyé son arrêt de travail, qu'est-ce que je fais ? Donc, tu vois, je vais lui dire, ça fait juste 24 heures, on va lui laisser davantage de temps. Est-ce que vous pouvez peut-être rédiger un petit mail pour lui demander d'en justifier dans les meilleurs délais ? Enfin, tu vois, ça va être très pratico-pratique. S'il me demande une recherche dans la convention collective du commerce de gros sur l'article 7.1, non, en fait. Ça dépend. Si c'est lire l'article, pourquoi pas. Mais si c'est sortir une consultation sur un article et les dernières positions de la Cour de cassation sur l'interprétation de l'article...
Ça rentre pas dans l'abonnement.
Non, en fait.
D'accord, donc ton abonnement, comment vous le définissez du
C'est coup des conseils RH pratico-pratiques sur la gestion quotidienne des salariés, en fait.
D'accord.
Et d'ailleurs, il y a une page de vente sur l'abonnement avec les questions précises qui rentrent dedans ou qui n'y rentrent pas.
Ok.
Voilà.
Donc tu as fait le tout venant, le truc sur lequel, a priori, toi, tu n'as pas besoin de
réfléchir.
Ouais, enfin, exactement. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que nous, on chiffre les abonnements. Enfin, on mesure le temps passé sur les abonnements. On ne se dit pas, c'est l'abonnement, donc j'arrête les fiches de sang.
D'accord. Donc tu regardes, tu fais quand même.
Parce que l'idée, c'est de regarder si on est quand même.
Tu vois si ça vaut le coup, quoi.
Oui, voilà.
Et on n'a pas trouvé.
Et alors ? Bilan.
Et alors, ça vaut le coup parce qu'il y a des actes derrière, en fait.
Ouais, d'accord.
Sinon, ça serait...
Vous ne faites pas du chiffre avec l'abonnement ?
Non.
C'est vraiment un appel.
Non, c'est un service qu'on rend à nos clients en support d'autres actes qu'on rédige de façon régulière pour eux.
Vous avez combien d'abonnés ?
Alors, je vais parler que sur le social.
Ouais.
Moi, j'en ai une quinzaine sur le social.
Ok. Ça fait quand même un peu de chiffre, quoi.
Tu parlais quand on s'était eu au téléphone, tu me disais, moi je communique beaucoup sur LinkedIn et aussi sur Instagram, mais du coup c'est pas les mêmes cibles et ils viennent pas voir la même chose. Tu peux nous expliquer ?
Oui. Sur LinkedIn, c'est très régulièrement que des publications que je fais génèrent des vraies prises de contact très sérieuses qui donne lieu à une collaboration. Sur Instagram, ça...
Pas une collaboration, un dossier client.
Un dossier client, pardon. Une collaboration entre nous et un client.
Oui, d'accord.
Mais sur Instagram, ça n'arrive pas. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être que Julien et Sarah ont d'autres expériences, mais à ma connaissance, c'est pas le cas. En revanche, ce qui se passe bien sur Instagram, c'est la vie du cabinet. Ça, les abonnés aiment beaucoup voir les équipes évoluer. Donc, c'est... Ça plaît et ça génère aussi, de la part de stagiaires ou de talents, des prises de contact via Instagram, en fait.
Et qui gère l'Instagram ? C'est pareil, c'est tout le monde ?
Tout le monde. Ouais. En fait, la règle, c'est que quand tu fais un post sur LinkedIn, tu le fais aussi sur Instagram et c'est la personne qui poste qui gère les deux.
D'accord.
Voilà.
Donc, en fait, ça vous donne une bonne image employeur.
Auprès des jeunes.
Fait.
C'est vraiment le travail sur la marque employeur. Ça passe par Instagram. Mais c'est pas comme ça qu'on va capter des
clients. Tu captes pas de clients.
Dans tous les cas... Marc, peut-être dans l'e-sport,
pas visible,
dans d'autres pratiques que la tienne. Mais
exactement. Par exemple, moi, je n'ai jamais utilisé Twitter. Et Julien le fait pour l'e-sport.
Ouais.
Et je pense qu'en fonction des pratiques, comme tu le dis, il y a des supports de com, enfin des médias qui s'y prêtent davantage.
Ouais. C'était comme quand on avait interrogé Benoît Couty, il disait que tout le crypto art, ça se passe sur Twitter. Il y a des endroits où chaque réseau...
C'est vrai. Est-ce que tu peux nous donner, parce que du coup, tu fais beaucoup de com, en fait, vous faites beaucoup, beaucoup de com, donc en termes de temps passé et en termes d'argent, vous, enfin, tu peux nous donner un peu des budgets ou le temps que vous passez à poster des choses, enfin, vous le faites tous tout seul, c'est...
Alors, c'est quand même les stagiaires qui s'occupent de faire les publications, même si on valide les textes tous ensemble, mais aujourd'hui, je passe pas beaucoup de temps, moi, à titre personnel, en fait, à
là,
le faire.
Tu fais le fond.
Voilà. Donc, si je dois te dire combien de temps je passe à animer les réseaux sociaux...
Mais même à produire du contenu.
Pareil, les épisodes de podcast, les contenus du podcast, tout ça, c'est rédigé, ce n'est plus rédigé par moi. D'accord, même si je l'ai beaucoup fait au début.
Ouais,
maintenant,
sûr.
J'ai une trame, je sais exactement quelles sont les questions qu'on pose et d'accord. quelles sont les attentes des auditeurs, parce que je me suis confrontée à notre audience, mais... Aujourd'hui, je ne construis plus les épisodes.
D'accord.
Donc, je pense que je dois passer 2 heures par semaine, peut-être 2 heures à faire de la communication. Mmh. Après, je fais beaucoup de réflexions.
Il y en a
réflexions.
D'autres qui le font, donc ça reste du temps et un budget, pas toi.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais alors, pour le coup, j'ai des feuilles de temps. Enfin, on a un logiciel qui s'appelle Zlawyer pour tous les collaborateurs, mais qui n'est pas forcément utilisé par les stagiaires. Donc,
c'est
un peu difficile.
Et en termes de budget, entre l'AdWords, Laura.
Oui, alors en termes de budget, les campagnes d'AdWords, c'est à peu près 600 euros par mois.
Mmh. Ah, c'est intéressant, ok.
Mmh. Voilà, entre 600 et 900 euros. Ça dépend des moments. Par exemple, tu vois, il y a des périodes où le CSE, tu sais que les élections ont lieu tous les 4 ans, donc il y a des moments où il faut donner une coupe bourre sur les campagnes AdWords. Tu peux allouer un budget supplémentaire, mais c'est pas forcément linéaire et constant. Ouais. Donc, je dirais entre 600 et 900 euros pour les campagnes AdWords. Ça, c'est hors coût du prestat.
Oui, parce que le prestat te rajoute en plus en coût.
Voilà. Ensuite, Laura, au début, je travaillais peut-être davantage avec elle. Aujourd'hui, c'est plutôt sur des projets ponctuels.
Après, c'est des choses globales, hein, tu vois, on ne te demande pas...
Et toutes tes pages de vente, etc., qui les faites, en fait, maintenant.
Non, je continue à travailler avec elle sur les pages de vente. Donc, par exemple, ça m'embête de dévoiler ses
tarifs. C'est pour ça que je ne parlais pas de Laura en particulier.
Et les infographies.
Je veux dire, en règle générale, dans le budget du cabinet, en com, combien, le budget alloué à la com dans le cabinet.
Je pense qu'on pourrait dire très, très à la louche, 2000 euros par mois. Okay. Mais vraiment,
les infographies, c'est vous qui les faites aussi.
Oui.
Okay. Et vous utilisez Canva, comme tout le monde.
Le blog. À un moment, on déléguait la newsletter. Maintenant, on l'a fait en interne au sein du cabinet, donc ça ne nous coûte plus rien. On utilise Canva, donc on a un abonnement pro, mais en fait, avec l'abonnement simple de base, c'est déjà très bien.
Bien le faire,
maintenant, on a un abonnement pro sur Canva.
Et ça marche bien, votre newsletter ?
Alors, la newsletter...
Vous y arrivez, vous avez craqué le sujet de la newsletter. Parce que c'est vraiment...
En fait, tu sais ce que c'est le problème de la newsletter, je pense, c'est que nous, on n'est pas assez réguliers. Il faudrait en faire une toutes les semaines. Toutes les semaines. Si tu veux augmenter tes statistiques
mais
d'ouverture...
Mais après, qui les lit vraiment, les newsletters ?
Non, mais en fait, il paraît que c'est le nouveau...
Moi, j'en lis une, quoi.
Il paraît que c'est le renouveau de la communication.
Et moi, je passe mon temps à me désabonner des newsletters que
moi
je
aussi.
Reçois. Donc, je sais pas.
Franchement,
des statistiques d'ouverture qui sont plutôt meilleures que dans la profession, mais ça me semble pas incroyable. Enfin, moi, c'est pas. On continue à le faire, mais je pense que.
Tu sais pas pourquoi. On n'est pas complètement sûr de savoir pourquoi.
Non, en fait, on lit les titres et on entend parler, mais qui les lit profondément, je sais pas.
J'avais une dernière question avant de passer aux questions qui fâchent. Pourquoi Victoire ?
Pour plein de raisons.
Pourquoi Victoire ?
Déjà, ça augure des lendemains
c'est vrai,
glorieux. Victoire, parce qu'on s'est rencontrés dans un cabinet rue de la Victoire. Parce que moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence, donc il y a la Sainte-Victoire. Parce que je voulais appeler ma fille Victoire et que j'ai eu un veto
de son mari.
qui trouvait que c'était trop de pression pour une enfant.
C'est pas faux.
Donc, pour plein de raisons.
Donc, Victoire. Okay. On passe à notre dernière partie. Et notre dernière partie, c'est les questions qui fâchent.
Ouais.
La première question qui fâche, c'est si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle ?
Alors, nous, on a un petit sujet dernièrement qui fait qu'on s'est interrogé sur le... Alors, c'est en lien avec le secret professionnel, donc évidemment qu'on va pas supprimer cette règle. Ouais. Mais son application, en tout cas, est un peu sujette à critique de ma part, parce que dans l'élaboration de nos pages de vente, on recueillait des témoignages clients.
Ah oui, oh là là,
voilà.
Oui,
donc, on a été confronté à ce sujet-là, on a dû tout enlever.
C'est totalement interdit. Non mais c'est bien. Non mais c'est très bien que tu en parles parce que moi je savais pas à quel point avant de me pencher dernièrement pour un client sur ce sujet-là, je ne savais pas à quel point, jusqu'où ça allait.
Ah, c'est complètement inflexible.
C'est totalement interdit.
Donc, on a beau démontrer par A plus B que, en fait, si tu ouvres une page Google My Business,
exactement, bien
ton
sûr.
Client peut laisser une avec étoile, toute son identité et dire « Je suis le DRH de telle entreprise et je m'appelle Tata Rachel ou je ne sais pas quoi. » Et en fait, tu as toute son identité qui est déclinée. Donc, est-ce que tu peux pas finalement prendre ce témoignage et le mettre sur ton site, puisque en fait, ma question existe de toute manière. Est-ce que eh bien non.
Alors, ça tombe très bien que tu m'en parles, parce que en fait, je me posais la question de savoir si tu pouvais faire un screenshot, une capture écran de la fiche Google My Business, qui elle de fait, enfin, ne peut pas être régulée par l'ordre, puisque c'est un.
Je sais même pas ce que c'est qu'une fiche Google My Business là.
Tu sais, quand tu tapes le nom de ton cabinet, tu as à droite. Les petites
étoiles. Ah, mais regarde, Audrey.
Tu vas être crucifié.
Ouais, c'est clair.
Non, tu tapes le nom de ton cabinet, tu as une fiche à droite.
Ouais. Avec des petites ouais, avec étoiles, des étoiles. Ouais. Et les gens qui laissent leurs commentaires.
Ah, c'est
et...
ça, une... oui. Ça s'appelle. Moi, je ne connaissais juste pas le nom. Oh.
Bref, donc, est-ce que tu pourrais faire des screenshots de ça?
Non, parce que tu reprendrais à ton compte un témoignage que tu n'as pas vérifié. Même si toi, tu sais très bien que c'est ton client qui t'a donné l'autorisation de le produire. En plus, il y a des exceptions.
Et alors, Typiquement, quand tu fais des appels d'offres,
mais en fait, quand tu fais des appels d'offres,
ça, tu peux le
faire.
Tu
as le droit de reprendre des témoignages de tes clients s'ils t'ont donné l'autorisation.
Mais tu ne le mets pas en public, tu le mets que dans ton appel.
D'accord, mais du coup, là, le truc qui est sur Google My Business qui est public, tu pourrais te dire, comme le dit très justement Audrey, que en fait, tu le screenshots sur ton compte.
Non, mais moi, je ne comprends pas cette interdiction.
Non, mais moi non plus. Et puis surtout, tu es en concurrence. Typiquement, je te parlais tout à l'heure des plateformes. Évidemment, les plateformes de vote par correspondance, ils mettent tous les avis clients de tous les plus gros DRH.
D'ailleurs, quand j'ai tapé CSE, il y a Legal Place qui est arrivé en premier.
Ouais, non, mais Legal Place, c'est vraiment la plaie. C'est vraiment la plaie. Non, mais je suis sûre qu'ils sont charmants, mais juste moi, quand ils sont, quand leur baseline, c'est occupez-vous de votre entreprise, nous occupions du droit, j'ai failli tomber de ma chaise. Juste à côté de nous avons levé 40 millions d'euros. Putain, j'ai failli faire une attaque cardiaque.
Et en plus, moi, je peux mettre mes
avis
Google.
Moi, je peux mettre mes avis Google et puis je peux mettre mes témoignages.
La question, la deuxième question qui fâche. D'ailleurs, on a dit qu'on n'en posait plus que deux, Audrey, maintenant. Donc la deuxième, c'est la fameuse question Gad Elmaleh. Sur qui tu as copié ou plutôt qui t'inspire?
Alors, sur qui j'ai copié? En fait, ceux qui m'inspirent, ce sont les entrepreneurs. Voilà, donc je crois que je n'ai copié sur personne. Je me suis beaucoup inspirée de l'entrepreneuriat français, mondial. Et ensuite, quand j'ai eu un concept qui m'a intéressée, typiquement société à mission, eh ben, j'ai appelé les gens qui l'avaient fait avant moi. Donc, j'ai pris contact avec Delphine Galin, typiquement, pour ne pas la citer, de Garoé à Marseille, qui m'a parlé de comment elle était devenue société à mission, puisqu'elle l'avait fait juste avant nous. Et donc, qui m'a aidée à lancer, à structurer tout ça. Donc, je me suis... en général, j'ai les idées en étant inspirée par les entrepreneurs. Et ensuite, je les confronte à notre écosystème à nous.
Tu disais que tu avais écouté 6600 heures de podcast. T'as pas dit ça exactement.
Ah non.
Mais
j'ai pas compté.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux nous citer les podcasts ou les bouquins que t'as lus sur l'entrepreneuriat qui t'ont plu?
Alors, les podcasts, donc Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, les podcasts de Pauline Legnaud, que j'aime bien, les podcasts de Génération XX qui n'existent plus, mais qui sont encore, que tu peux encore écouter. Donc, ils sont vraiment...
Là, on se rend compte qu'on vraiment a copié... Il n'y a que des podcasts qui s'appellent Génération.
C'est vrai. Et on était dans la trend.
Les livres, qu'est-ce qu'il y a? Un livre qui n'est pas sur l'entrepreneuriat, mais c'est le dernier que j'ai lu, et c'est celui de mon ami Insaf, Autune citoyenne, qui est hyper éclairant sur comment mieux négocier sa rémunération, lutter contre le plafond de verre, le syndrome de l'imposteur, qu'il a coécrit avec Héloïse Boll de Oseille et compagnie. J'ai aimé aussi celui de... l'histoire du fondateur de Nike, l'art de la victoire.
Ah oui, l'art de la victoire.
Ouais.
Je t'ai pas lu.
Oui, alors j'ai dit des bêtises, parce que j'ai dit on peut faire que deux questions, mais non, il y avait la troisième qui est, peux-tu donner trois conseils à un avocat qui voudrait entreprendre? Bon, alors déjà, on a les conseils culture, lecture, podcast. Est-ce que tu aurais deux autres conseils?
Qu'est-ce que j'ai comme conseil à donner? Bien définir sa cible, je pense. Ce que j'ai pas fait au début et qui nous a pas forcément fait perdre du temps, mais en tout cas, je pense qu'on aurait économisé beaucoup d'énergie, d'argent et de temps. Après, toute expérience est bonne à prendre, mais effectivement, je pense que travailler vraiment bien sur sa cible au début et peut-être se former à l'entrepreneuriat, parce que en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait défaut et je me sens beaucoup mieux depuis que je me suis faite coacher. Pas que l'ESSEC, j'avais avant fait du coaching. sur le marketing, ouais. sur les domaines que je ne maîtrisais pas, aussi le management, enfin tous ces sujets-là. Ouais. Je trouve que c'est assez éclairant de se former sur ces domaines sur lesquels on ne connaît rien.
Ok, ça sera le mot de la fin.
Bah, merci beaucoup Marie-Laure.
Merci
à bientôt.
À bientôt.
Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.
Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale.
À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.